Boker Tov à toutes. On va parler d'un sujet qui nous touche à nous toutes, je pense, c'est les soucis. Comment on doit réagir aux soucis? Qui n'a pas de soucis? Voilà, du plus jeune au plus âgé, tout le monde est pris par ses soucis, tout le monde, il a ses, on va dire, cette petite bête noire là qui vient, qui nous prend la tête et qui nous empêche en fin de compte d'être nous-mêmes, qui nous empêche de servir Hachem. On va voir Bémet qu'en fin de compte, tous ces soucis, ça nous empêche de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on va essayer véritablement de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que j'ai dit comme mot qu'elle n'a pas compris?
Non, Akadosh.
Ah, d'accord, Mechila, je m'excuse.
Non, mais c'est pas grave, vous ma
cause. Alors, on va dire Hachem. Hachem, voilà. Vous savez ce que c'est? D'accord, ok. Tout le monde sait Hachem, oui. D'accord, ok.
Donc, je préfère poser des
questions. Oui, il faut, parce que sinon, si vous loupez. Alors, si vous loupez Hachem, c'est-à-dire, en fait, on va se rapprocher de quoi? Boker Tov, tu vas bien?
Oui.
C'est sûr que vous allez rater tout le cours, en fin de compte. Ok, donc. Donc les soucis, c'est le problème de tout le monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui... Tu peux venir t'asseoir. C'est ce qui nous prend la tête. Alors, on va lire une lettre de Rabbi Nathan. Alors, juste pour vous situer. Rabbi Nathan était le disciple de Rabbi Nachman. Et en fait, sans Rabbi Nathan, on n'aurait jamais pu savoir en fait rien de toute la chassidou de Breslev. C'est, en fait, Rabbi Nathan, c'était le scribe, c'est-à-dire qu'il reprenait, il recopiait, il entendait les paroles de Rabbi Nachman, il recopiait tout, après il lui soumettait, et donc après Rabbi Nachman disait ça oui, ça non, tout ça. Donc en réalité, si on connaît aujourd'hui Rabbi Nachman et toute la chassidoute de Breslev, c'est grâce à Rabbi Nathan qui a été... l'élève le plus, on va dire, le plus proche, celui qui s'est complètement, on va dire, qui s'est introduit un petit peu dans l'esprit de Rabbi Nachman. Il faut comprendre que Rabbi Nathan, il a connu Rabbi Nachman quand il avait 22 ans. On pourrait dire que c'est très jeune, tout ça, mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, Rabbi Nathan, d'abord, il vient d'une lignée, d'une dynastie des grandes familles de rabbins. À son âge, il était déjà très grand rabbin, décisionnaire. C'était ce qu'on appelle un gaon, un iloui. Ça veut dire vraiment quelqu'un qui était très, très, très versé dans l'étude de la Torah. Donc, et avec ça, quand lui, il avait donc un avenir brillant et tout tracé pour devenir un très grand rabbin. Mais il y avait toujours quelque chose qui le perturbait, il cherchait. Malgré tout ce qu'il avait, il était toujours en recherche de quelque chose qu'il ressentait qu'il y avait un manque, comme un manque dans son service divin, un manque dans sa manière, d'accord, dans son approche d'Hachem. Et donc, un jour, il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Et je vous passe tous les détails. Si vous voulez, vous avez un livre, je ne sais pas si vous l'avez ici, mais il y a le livre Abénou. On va l'emmener dans quelques semaines, on va le recevoir, on va vous l'offrir si Dieu veut, on l'a commandé. Donc ça vous racontera toute l'histoire et c'est franchement, je crois, un des plus beaux livres qui m'a été donné de lire. Et donc, quand il est arrivé chez Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je mets tout mon savoir à la porte, je veux tout réapprendre comme un enfant. Depuis le ABCD, tout, 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 tout. Donc Rabbi Nathan a passé beaucoup, beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il a passé beaucoup de choses parce que, bien évidemment, c'était des périodes en Ukraine qui étaient difficiles pour les Juifs. Et il s'est quand même battu pour dispenser cette pensée de Breslev, qui aujourd'hui, en fin de compte, d'accord, nous aide énormément. Parce que... plus on rentre un petit peu comme ça dans la pensée Breslev et puis on s'aperçoit qu'en fait on nous apprend à pouvoir supporter le monde et l'environnement, la civilisation dans lequel on vit, en nous disant en fin de compte, d'accord, t'inquiète pas, tout va bien, on t'aime, Hachem il t'aime, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Rabbi Nachman, c'était son message, on va dire, essentiel, c'était reste joyeux. Quoi qu'il arrive, reste joyeux parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce qu'Hachem fait de toi, tu ne sais pas comment Hachem est en train de bouger le monde, de faire tourner les trucs, Boker Tov. Et donc, il y a marqué comme ça que l'essentiel, c'était ça. C'est-à-dire toujours garder la simcha. Et on voit que dans tous les enseignements de Rabbi Nachman, il nous emmène en fait à cette compréhension. Comment je vais rester quand même? Besimcha, c'est joyeux.
Oui.
Ah. J'ai oublié. Donc, et on voit comment Rabbi Nachman nous emmène à chaque enseignement en fait à mieux comprendre comment ça fonctionne. On va dire que peut-être que nous, on a été un petit peu, on va dire, on a une éducation judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou pas, où quelque part on a cette peur du châtiment, quelque part on a un petit peu satanisé Hachem, tu vas faire ça, il va t'arriver ça. On a un petit peu, on va dire, ces peurs en nous. Et là, doucement, on voit que Rabbi Nachman, il nous dit, écoute, tu te trompes complètement, parce que si tu penses comme ça, en réalité, tu vas rentrer des peurs en toi, qui ne servent à rien, qui ne vont pas t'aider ni à avancer, ni même, en fin de compte, à pouvoir servir Dieu, chacun selon son niveau, chacun selon sa compréhension, tu ne pourras pas le faire avec joie. Or, Hachem, si on doit, entre guillemets, imager Hachem, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre comme mot pour imager Hachem?
Un
père, la sérénité,
amour,
l'amour.
Je veux dire, en vrai, mais je sais pas.
Dis-le.
Pardonner, genre, il pardonne quoi, il est.
Il est sadran.
Ouais,
ouais, il pardonne, d'accord, tolérant. Qu'est-ce qu'on pourrait donner encore? Il a fait, t'as tout compris, c'est bien. Si on devait mettre un nom, d'accord, à Hachem, c'est la joie. Si on devait donner une image, Hachem, c'est la joie. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, depuis le début, il nous enseigne toujours, si tu es triste, tu ne peux pas en réalité être avec Hachem. Là où il y a de la tristesse, il ne peut pas y avoir Hachem. Le cœur brisé, oui, mais pas le cœur triste. Parce que la tristesse, en réalité, c'est une pure fabrication du Yetzer Hara, le mauvais penchant. Qui lui, d'accord, qu'est-ce qu'il veut nous faire, le mauvais penchant? Il veut justement tout faire d'une manière très intelligente et d'une manière très raffinée, d'une manière tout comme il faut, tout faire pour nous déconnecter de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer Hara? Il va nous rentrer des pensées en nous, des pensées qui sont fausses, d'accord? Qui vont faire que, sans nous en rendre compte, eh ben, on a un peu le vague à l'âme, on a un peu des peurs, des stress, des machins, etc., etc. D'accord? Donc, la pensée, on va dire, de Rabbi Nachman, c'est vraiment toujours, toujours, rapproche-toi de Dieu. Dieu, c'est la simcha. Quoi qu'il arrive, reste besimcha. Et Rabbi Nathan, dans ce livre qu'on va aussi recevoir, on a passé une commande, on vous l'offrira, Bezrat Hashem, qui s'appelle « Des mots qui guérissent ». C'est vraiment le cas. C'est des petites lettres que Rabbi Nathan a envoyées à son fils, et où à chaque fois il le remontait. Ces lettres, en réalité, sont, je crois, pour nous tous. Ça nous remonte, ça nous touche. Je pense que personne reste insensible, parce que les problèmes que chacun pouvait rencontrer, c'est les problèmes de tout le monde. On a tendance souvent à croire que nos soucis, c'est des soucis qui n'ont pas existé chez les autres. Nos soucis, c'est très très personnel. Mais si tu regardes bien et si tu analyses bien, tout le monde a les mêmes soucis. Donc après, c'est des variantes, après c'est des contextes différents, avec des personnes différentes, mais si on regarde bien à l'intérieur, tout le monde a à peu près les mêmes soucis. Alors aujourd'hui, on va parler, Bémet, des problèmes qu'on a tous, donc comme on a dit, pour ceux qui viennent d'arriver, les soucis. Comment on va faire pour sortir des soucis? Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, donc à son fils, l'essentiel est de ne pas se soucier du lendemain et de ne pas laisser son esprit se troubler ni à cause du passé ni à cause de l'avenir. Parce qu'en réalité, le passé, ben écoute, il est passé. Tu ne peux pas le réparer, tu ne peux rien faire. C'est passé maintenant. L'avenir, tu ne sais pas ce qui va se passer dans une heure, tu ne sais même pas ce qui va se passer dans la minute qui va suivre. Donc en réalité, vis ton moment présent. Et si on analyse bien, la plupart du temps, on vit ou dans le passé ou dans l'avenir. On a beaucoup de mal à vivre dans le présent. Et c'est dommage, parce qu'on passe à côté de plein de choses en fin de compte. On va prendre des exemples. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, vous, qui vous touchent, qui pourraient nous faire avancer à nous tous, que je vis dans le passé. Par exemple, voilà, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui veut essayer de se rapprocher d'Hachem, d'accord? On a tous une Neshama, d'accord? Une âme juive. Et cette âme juive, en réalité, c'est un point divin. C'est une partie d'Hachem. On a tous une partie d'Hachem en nous. qu'on soit très religieux ou athée. Tu peux même dire, tu sais quoi, je veux plus être juive, je renie ma foi, Boker Tov. On s'en fiche, d'accord ? Tu resteras juif. Tu es né juif, tu resteras juif. Nous sommes la seule religion où tu peux dire ce que tu veux, même te convertir. Tu es né juif, tu resteras juif. Bon. Donc, le point divin qu'on a en nous, d'accord, cette partie d'Hachem, elle est là, elle est en nous. Donc, on pourra dire tout ce qu'on voudra, c'est là. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé du point divin, en fait. Ah oui, quand on veut faire tshuva, donc chacun de nous, d'accord, il essaye de faire tshuva, c'est-à-dire qu'il essaye de revenir un peu vers Hachem, d'accord. Maintenant, dès qu'une personne, elle veut commencer à revenir un petit peu vers Hachem, et c'est chacun selon son niveau de compréhension, chacun comment Hachem il va le diriger, comment lui il ressent, d'accord. Revenir chez Hachem, c'est très vaste. C'est waouh, c'est extraordinaire, je trouve, parce que il y a pas un plan, il y a pas une recette, il y a pas il faut faire ça. Chacun comment il va prendre, il va attraper son truc. Et donc, dès qu'une personne veut revenir vers Hachem, doucement. Donc au début, on va dire entre guillemets, on peut peut-être lui faire un peu tapis rouge, elle a la sensation, voilà, de comprendre, d'être bien et tout. Et puis après, va commencer les embûches. Et une des premières embûches, souvent, c'est quoi ? C'est le passé qui nous revient. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est quoi faire tshuva ? C'est prendre conscience de choses qu'on aurait pu faire auparavant, d'accord ? Et qui, peut-être, auparavant, je ne ressentais pas que c'était, entre guillemets, pas top. Et puis aujourd'hui, je ressens que, waouh, qu'est-ce que j'ai fait ? Et tout le monde a son petit point noir qui fait qu'on regrette quelque chose dans sa vie. Et le Yetzer Hara, il nous dit souvent, mais qu'est-ce que tu es en train de vouloir maintenant faire ça ? Mais de toutes les façons, ton dossier, il est mort, c'est grillé. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a... Donc c'est mort, tu peux rien faire, d'accord ? Par exemple, je vous donne des exemples concrets qui peuvent toucher la vie de tout le monde. Une personne, par exemple, a fait du mal à quelqu'un. D'accord ? À vraiment blesser une personne. Donc tu peux dire, c'est mort de toute façon. Tu veux jouer aujourd'hui la bonne personne, la fille gentille, la fille machin. Mais tu oublies, le Yetzer Hara, il vient, il nous rappelle. Tu oublies toutes les méchancetés, tous les machins. Ok ? D'accord ? C'est passé. Je vais peut-être réparer aujourd'hui. Peut-être. On a toujours des possibilités de réparer. Une personne, par exemple, d'accord, que Dieu préserve, elle a avorté. C'est des choses qui arrivent. D'accord ? Et on sait dans notre religion que l'avortement, c'est quelque chose de très, 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 très grave. C'est interdit. C'est. En yiddish, on dit haram. Donc, c'est très, très péché chez nous. D'accord ? Et on sait que beaucoup disent il n'y a pas de réparation possible. Donc, quelque part, tu dis tu sais quoi, en fait, moi, mon dossier, il est mort. Je ne peux pas faire tshuva parce qu'il y aura toujours quelque chose, en fait, qui va me rattraper. Et il y aura toujours cette faute. Alors, j'ai envie de te dire, pourquoi tu continues, Bichlal, de vivre et d'avancer, puisque, en fin de compte, tu portes ce poids affreux sur toi. Il faut savoir que Hachem, il a créé la tshuva. La tshuva, c'est le repentir. Hachem, il a créé la tshuva, d'accord, pour tout. Ça n'existe pas une faute. On te dit, tu ne peux pas faire tshuva. Tout à Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu viens avec un cœur pur chez Hachem et tu lui dis, Hachem, j'ai fait ça, tu reconnais, tu n'as même pas besoin de passer devant un juge ou quoi, tu fais ton propre procès, comme on dit. Hachem, tu sais quoi, j'ai fait ça, c'est vrai, c'était pas bien, je regrette, donne-moi la possibilité aujourd'hui de réparer, donne-moi la possibilité de pouvoir arranger ce que j'ai fait. Et c'est tout. Alors tu vas me dire, mais comment je vais arranger ? Je suis ménopausée, je peux plus avoir d'enfants, etc. Et puis 10 000 choses, d'accord ? Comment tu vas arranger ? Alors tu vas dire, non, je peux plus arranger. Si, tu peux arranger, tu sais quoi ? Un jour, tu vas entendre une femme qui veut avorter, va la voir, dis-lui, tu sais, ne fais pas ça, c'est pas bien, je sais qu'aujourd'hui tu as peut-être tes problèmes, tes angoisses, viens, je vais t'aider, je vais te soutenir. Tout, on peut tout arranger. Donc, dans chaque situation, d'accord, il y a un moyen d'arranger les choses. D'autres choses aussi qui peuvent être très graves, d'accord. Ça nous concerne pas directement, mais n'empêche que ça nous concerne malgré tout. C'est tout ce qui est les pollutions nocturnes, ok. la pollution nocturne, c'est en réalité, c'est vivant. D'accord ? Et ça aussi, on sait que c'est très très grave. C'est la semence d'un homme qui est mise en vin.
La masturbation ?
Non, pas la masturbation. Ah, oui, la masturbation, c'est à sceaux. Ouais. C'est interdit. Mais c'est ce qui va découler de ça. C'est la semence. Le zéra.
Okay.
D'accord ? Qu'est-ce que vous dites ? Donc la semence, d'accord, qu'un homme peut émettre en vin, ça veut dire à l'extérieur, en fin de compte, de sa femme ou quoi, c'est interdit, ok. Alors, ça aussi, c'est grave parce que la semence, c'est vivant, d'accord. Donc, c'est des âmes, des potentielles d'âmes qui auraient pu, qui attendaient juste une réparation et puis qui, en fin de compte, ont été jetées n'importe comment. Et bien là aussi... Rabbi Nachman il vient et il dit, tu sais quoi, et sachez que ça c'est une grande chose, parce que jusqu'à que Rabbi Nachman ne vienne et nous donne de la solution aussi à ce problème, les gens étaient très mal, les gens ils tombaient en dépression, ils se roulaient dans la neige, ils se faisaient des mortifications, des choses terribles, et encore ils savaient que ça ne marcherait pas. Rabbi Nachman il a reçu ça Bémet en cadeau, d'accord. Le Harizal aussi avait essayé, beaucoup de rabbanim avaient essayé, de grands tzadikim. Rabbi Nachman, il a reçu ça en cadeau, c'est quoi? Les 10 psaumes qui s'appellent le Tikkun HaKlali, en français c'est le remède général. Un homme, que Dieu préserve, d'accord, il va mettre une pièce de tzedaka, il fait le Tikkun HaKlali et il va au mikvé et il regrette véritablement ce qu'il a fait, sa faute, elle est effacée. Quand même quelque chose d'extraordinaire, je peux vous dire, parce que les gens qui sont conscients de cette faute, qui sont vraiment conscients, je peux vous dire qu'ils ne dormaient pas du tout de la nuit et de toute leur vie. Donc on voit que à chaque fois, d'accord, on a soit des peurs et des angoisses qui nous rattrapent de notre passé, et ça, c'est des boulets en fin de compte qu'on trimballe avec nous, ok. Ou alors on voit qu'on pense à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va être. Et en réalité, tu crées en réalité des situations, ça veut dire tu vis dans des situations qui n'existent pas, et là, en fin de compte, tu quittes un petit peu ce monde et tu te mets dans un monde imaginaire. Tu te fais des films de science-fiction incroyables, des films d'horreur vraiment affreux, d'accord ? Et total, il n'y a rien, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a rien qui se passe comme toi, tu prévoyais. Donc, on voit que quand on vient et on nous dit, écoute, l'essentiel, c'est de ne pas se soucier ni du passé, ni du futur, mais tout simplement, d'accord, et ne pas laisser son esprit se troubler, mais toujours rester sur le aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le passé, en fin de compte, me dérange. C'est des boulets, c'est des histoires que je traîne avec moi. Et puis, le futur, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Donc, ça ne sert à rien que je me prenne la tête. D'accord ? Tu penses que tu peux avoir un problème ? D'accord. On ne te dit pas qu'il n'y aura pas le problème, on n'en sait rien. Quand tu auras le problème, quand tu auras l'histoire, bah, tu vis le moment présent et à ce moment-là, Hachem, il va te donner, d'accord, des solutions. Mais vouloir anticiper une histoire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tu vas te prendre la tête, tu vas te sentir mal, pour rien. On raconte comme ça, que des fois, vous voyez des gens, ils sont allongés tranquilles sur leur canapé. Ils sont tranquilles. Et puis, on voit que ces gens-là, d'un coup, ils commencent un peu à changer de couleur de visage, ils s'angoissent, ils ont des sueurs froides. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la personne, elle se rend compte qu'en fin de compte, elle imagine des choses. Elle imagine. Ça ne sert à rien.
C'est quoi le présent, alors ?
Le présent, c'est maintenant, tout de suite.
Non, mais c'est maintenant ou c'est toute ma journée ?
C'est non ? Toute ta journée, est-ce que tu sais ce qui va se passer dans une heure ?
Oui, je pense qu'on n'est juste pas conscient de c'est quoi le présent.
Le présent, c'est là tout de suite. Ce que j'ai dit il y a une minute, c'est déjà du passé. Tu comprends ? C'est là, maintenant, tout de suite. C'est ni plus ni rien. Prends une chaise. Bokertov. Il y a une chaise là-bas, regarde, au fond. Tu comprends ? C'est ça. Ça veut dire ta journée, ce qui va se passer dans cet après-midi, tu ne sais pas. C'est pour ça que si vous voulez bien vivre, bon, on a toujours des petits rendez-vous, des agendas, des machins, tout ça, d'accord ? Marquez toujours vos rendez-vous, et à la fin, vous pouvez marquer ou en début, si Dieu veut. Parce que si Dieu veut pas, ben, il n'y aura pas. Donc, toujours, si Dieu veut. et se mettre vraiment dans ce rentrer ça, oui, se rentrer ça, vraiment le vivre. Pas juste dire si Dieu veut, je veux vivre si Dieu veut. Si Dieu ne veut pas, eh ben, tu sais quoi, c'est que ce n'est pas pour moi. Si Dieu y veut, ben voilà, des fois il y a même des choses que nous on n'avait pas prévues, et puis tac, ça sort et c'est des super belles choses, c'est très sympathique. Donc voilà, c'est ça en fait, tu comprends, le présent c'est maintenant tout de suite.
On ne peut pas penser pour le présent, c'est ça.
Tu peux pas penser pour le présent parce que tu le vis. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il faut savoir se dégager. Si on remarque bien, on a Baruch HaShem tous les âges ici, mais je pense que les on va pas s'appeler les anciennes, mais on va se dire les femmes mûres. nous les femmes mûres, on peut dire quoi, quand on peut leur dire combien de fois on s'est trimballé là, des boulets, des trucs, des galères, et tu te dis mais un jour tu dis allez, je m'en fous, je me... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine de se trimballer des boulets, ça sert à rien parce que ça t'arrangera pas ta vie, ça te rendra pas plus heureuse. Et c'est tout. Les choses, elles se sont passées comme elles veulent. Et encore une fois, si on s'imprègne à chaque fois, d'accord, de cette conscience qu'il y a un Dieu sur terre et que c'est lui en fait le maître du monde. Et que c'est lui qui nous fait passer par les chemins par lesquels on est passé. C'est lui qui nous fait passer des fois par des moments très beaux, très clairs. Et puis des moments, c'est des chemins un peu plus obscurs parce que je n'ai pas la bonne visibilité. Tout ça, c'est HM. Alors pourquoi vivre dans le regret? Pourquoi vivre dans le... Ça ne sert à rien. Donc les boulets, les trucs, tout ça, il faut dégager. Ensuite, il nous dit comme ça. Quant au jour et à l'heure que tu es en train de vivre, donc voilà, tu vois, tu n'as qu'à faire un bond, franchir et fuir ce que tu dois fuir à l'aide des conseils que tu connais bien. Ça veut dire, maintenant, quant au moment présent, alors, en réalité, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit, tu n'as qu'à faire un bond. Ça veut dire, c'est quoi faire un bond en fin de compte?
Avancer.
Ça veut dire apprendre souvent à enjamber. Enjamber les situations. Ça n'existe pas des moments toujours, tu vois, comme on voudrait... très sympa, il y a toujours des moments compliqués, il faut apprendre à enjamber, il y a un art, c'est un art de savoir enjamber. C'est quoi enjamber? C'est ne te prends pas la tête, ne te prends pas la tête outre mesure. Apprends aussi à t'en remettre à HM, apprends à utiliser, d'accord, ce merveilleux outil qu'Akadosh Baruch Hu t'a offert, c'est la bouche, c'est la parole, apprends à l'utiliser. Nous souvent on utilise notre parole, d'accord, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Dieu, il t'a donné, surtout nous les femmes, nous a donné la parole, juste pour vous, que vous compreniez. Nous avons 9 mesures de parole, nous, et les hommes, ils en ont une seule. C'est-à-dire qu'ils sont très pauvres à côté de vous. C'est pour ça que, c'est vrai, hein, vous avez remarqué, on remarque, d'accord, que souvent, nous, on parle, on a un débit du bénisse pour nous, et eux, avant qu'ils vont sortir un truc, il y a un temps. Alors, on va dire qu'il y a des exceptions, d'accord. Mais en général, la femme, elle a un vrai débit de parole. Souvent, elle peut enchaîner, tac, 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 grâce à Dieu. Et puis l'homme, ça peut aussi engendrer des fois des problèmes de shalom bayit, parce que quand on leur parle, on voudrait avoir une réponse immédiate. Et nous, comme on ne sait pas qu'un homme, il est différent de nous, d'accord, on croit qu'on est égalité, alors automatiquement, vu qu'il réplique pas tout de suite, il ne nous donne pas, qu'est-ce qu'on se dit? Il s'en fout, il ne prend pas à cœur. Mais non, ce n'est pas qu'il ne s'en fout pas, c'est que son temps de digestion est un peu plus lent. Elle m'a l'air, non mais je le fais en sympathique, mais c'est vrai, nous on dégaine en 2 secondes, tac, 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 tac. Et ça ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas, donc en vrai... Toi qui vas te marier bientôt, sache-le, quand tu parleras à ton mari, d'accord, apprends depuis le début, comprends-le, qu'il a un temps de réflexion qui n'est pas toujours comme le tien. Il a besoin d'abord d'assimiler. Donc, ce n'est pas la peine de croire qu'on ne t'a pas entendu, qu'il s'en fiche ou quoi, pas du tout. Apprends à attendre. 2 secondes, il va te répondre. Tu comprends? C'est tout. Et oui, combien de fois nous on dit nous? C'est-à-dire que c'est dommage parce que souvent on passe à côté de certaines réponses, vu que nous on s'est déjà énervé, on a claqué la porte, on a donné nos réponses, on a tout donné et lui il est encore là. Nahon, c'est bête parce que si ça se trouve il voulait dire quelque chose, on est passé à côté de choses. Après on se demande pourquoi il ne parle plus. On dit souvent, les femmes, elles disent à un certain âge, mon mari ne parle pas, il est grincheux. C'est pas qu'il ne parle pas, il est grincheux, c'est que le pauvre, on l'a tellement empêché de parler voilà, et c'est, voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, mais bon, je pense que c'est des petits conseils qui nous servent à nous toutes, parce que c'est dommage de passer à côté de certaines choses. Donc ce qu'on veut nous dire ici, c'est quand tu es dans un présent, d'accord, eh ben, prends un peu de recul et puis apprends à enjamber. Ça veut dire, ne te prends pas la tête pour les choses, dis-toi, bon, tu sais quoi, je vais essayer de mettre en place, d'accord, déjà le peu qu'on a appris, c'est apprends à juger l'autre avec miséricorde, apprends à regarder le point positif qu'il y a en l'autre, même si maintenant, c'est vrai, instant T, il fait quelque chose qui n'est pas bien, mais quand même, il a des points positifs, il y a des actes dans sa vie qu'il a fait qui étaient quand même louables. Ça n'existe pas, quelqu'un qui fait que du mauvais, ça n'existe pas, je ne connais pas. Donc, tout ce que tu peux, et donc automatiquement, quand tu appliques, d'accord, ce genre de conseils, ben, tu t'aperçois que là encore, tu t'évites toi-même des problèmes, des conflits, des histoires. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans une situation et qu'on rentre dans un conflit ou on s'imagine des mauvaises choses ou quoi, qui c'est en réalité qui souffre en premier ?
C'est nous.
C'est nous. Donc qu'est-ce qu'on a gagné ? Rien. Alors que si je m'étais dit, bon écoute, tu sais quoi, regarde, je me donne la tête, je laisse tomber, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas commencer à mal penser, je vais laisser les choses se mettre en place. Des fois, c'est bien aussi de savoir, avoir un peu d'humilité, ne pas croire que nous, on peut tout gérer, on peut tout faire. Je me mets un petit peu en retrait et je me dis, tu sais quoi, HM, ce dossier, je vais te le laisser parce que là, je sens que c'est un peu gros pour moi. C'est bien aussi d'avoir cette humilité, de se rappeler que de toutes les façons, c'est HM qui gérera. Donc, si moi, je ressens que là, je vais m'énerver, je vais dire des mauvaises paroles ou quoi, ça ne sert à rien. La bagarre, la guerre, les insultes, ça n'a jamais rien apporté. Jamais. Et une chose que Rabbi Nachman il nous dit, et ça je trouve que c'est un enseignement merveilleux, il nous dit, si tu penses que tu peux éduquer avec la force, alors sache que tu te trompes. Parce que tout ce que tu auras obtenu par la force, ça ne restera pas. Regarde un enfant par exemple, d'accord ? Tu veux l'obliger à faire des choses et tu mets ton autorité et tu es là et tu l'obliges et tu le forces, tu le fais. D'accord ? Il va te donner et l'impression et tu auras l'impression qu'il va faire ce que tu lui as demandé. Mais si tu n'as pas réussi en réalité à lui faire passer ton message, que c'est juste par de la force en fin de compte que tu obtiens la chose, dès que l'enfant aura la possibilité, d'accord, de faire autrement, dès que tu as le dos tourné ou dès qu'il va un petit peu grandir et qu'il va se sentir indépendant, ben il ira faire ce que tu veux. Donc, tu crois que tu as obtenu quelque chose, tu crois que tu as pu faire passer un message, mais en réalité, avec cette force-là, tu as juste obtenu que la personne, tant qu'elle se sent qu'elle n'a pas trop le choix, elle va le faire. Mais en fin de compte, elle ne le fait pas. C'est pour ça que, par exemple, regardez dans notre si belle religion Bémet, on n'a jamais vu qu'on nous oblige à faire quelque chose. Ça n'existe pas qu'on nous oblige à faire le Shabbat, on nous oblige à s'habiller d'une certaine manière. On nous dit, voilà, Dieu, d'accord, qui est ton créateur, il t'a donné une Torah, il t'a donné des mitzvot, c'est des commandements. C'est tout ça, d'accord, si tu regardes bien et tu analyses bien, ben, c'est une notice en réalité pour bien vivre. Il te dit, voilà, moi je suis ton créateur, donc moi je sais ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas, d'accord. Je te donne maintenant des commandements, je te dis voilà, ça c'est pour ton bien. Mais après, libre à toi de dire, je veux prendre les commandements ou non, je me crois plus intelligente et je ne vais pas faire. Pour nous, dans notre cas, on n'est pas plus intelligente, nous c'est juste qu'on est les enfants de l'exil. Donc nous c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire nous en fait, on est né comme ça, nos parents sont nés comme ça, on ne connaît pas, on n'a pas appris et ce n'est pas de notre faute. Donc, et grâce à Dieu, aujourd'hui, doucement, doucement, chacun il a un réveil, chacun il essaye de se renforcer comme il peut. Mais toujours est-il donc que tout le travail qu'on doit faire, c'est justement, c'est dire, allez, tu sais quoi, j'enjambe, je ne me prends pas la tête, je ne reste pas bloqué sur une situation, hop, je passe. Je passe parce que maintenant, instant T, d'accord, je ne suis peut-être pas capable de gérer la situation, mais dès que je vais faire un bond et qu'en fin de compte, je prends un peu de recul, je reste pas bloqué sur une situation, ben j'aurai des capacités, je vais avoir des nouvelles capacités, je vais envisager la situation différemment et donc je vais maintenant l'appréhender d'une autre manière. Donc on voit que ça c'est Bémet, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et il dit comme ça, et plus que tout, Le facteur déterminant reste la délivrance divine et les prodiges grandioses que Dieu opère pour tout homme, chaque jour et à chaque instant. Et ça, c'est, je pense, notre grand souci, c'est qu'on oublie, d'accord, on vit dans une société, on est dans une civilisation. Le Yetzer Hara, son but principal, c'est de nous déconnecter d'Hachem. À chaque situation de notre vie, d'accord, on a vu que c'est nous déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, quand tu te déconnectes d'Hachem, tu prends tout à cœur. Tout, tu vas prendre à cœur et tu vas te stresser, tu vas t'angoisser, tu vas te faire du souci, tu vas t'énerver, tu vas pleurer. Tu prends tout à cœur. Pourquoi ? Parce que tu oublies ce qu'il est en train de dire. Et plus que tout, le facteur déterminant reste la délivrance divine et les prodiges que Hachem, il opère pour chaque homme et à chaque instant. Ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu, il a un œil sur chacun de nous. Sur chacun de nous, Hachem, il a un œil. Et pour chacun de nous, Hakadosh Baruch Hu, il organise, et il fait, et il protège, et il fait. Hachem, il organise tout. Ça n'existe pas qu'Hachem, il dit, j'ai oublié un de mes enfants. Ce qui fait que si tu prends conscience de ça, et tu ne te laisses pas attraper en fin de compte, par ce Yetzer Hara, le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant, d'accord ? Par ce Yetzer Hara qui, lui, ne cherche qu'une seule chose. Il n'y a pas Dieu. Il te fait dire, il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. C'est toi maintenant qui dois agir. C'est toi qui dois prendre des décisions. C'est toi qui fais les choses. Donc, si c'est toi, bah, tu vas prendre tout ça à cœur. Et rappelle-toi ce qu'il a dit Rabbi Nachman, la vie est un jeu. Mais ne te prends pas trop au jeu. Parce que c'est ça tout notre problème. C'est que quand j'oublie que la vie est un jeu, qu'en fin de compte, il y a quelqu'un au-dessus de moi, d'accord, qui est là, qui dirige, qui organise, et qui fait ça depuis la création du monde. Et qui fera ça jusqu'à Mashiach, et même après. C'est-à-dire, il y a quelqu'un au-dessus. Donc, toi, on t'a fait venir dans ce monde-ci, d'accord. Et on te dit, voilà, maintenant, tu vas devoir, on va te mettre dans des contextes, on va te mettre dans des situations, on va te mettre dans un pays, on va te mettre avec un mari, des enfants, sans mari, sans enfant, chacun sa configuration, d'accord ? Et on te dit, voilà, maintenant, à toi de jouer. Et sachez qu'avant de descendre dans ce monde, quand on est encore chez Hachem, quand l'âme est encore chez Hachem, sachez une chose, c'est qu'on montre à l'âme tout ce qui va lui arriver. Même plus que ça, je vais peut-être régler certains problèmes pour ceux qui sont là ou ceux qui entendent à travers les téléphones, là, les trucs qu'on enregistre. On va régler certains problèmes, certains conflits parents-enfants. Avant de descendre, donc, on nous dit, voilà, ça va être ta vie, voilà, c'est ton père, c'est ta mère, c'est tes frères, tes sœurs, t'es ok ? La Neshama, elle, qui est maintenant dans le monde de la vérité. La Neshama, c'est l'âme. D'accord ? La Neshama qui est donc dans le monde de la vérité. Et donc, c'est quoi être dans le monde de la vérité ? Ça veut dire voir d'une manière claire, limpide, sans tous les écrans que nous, on a ici et qu'on ne comprend rien de ce qui nous arrive. D'accord ? Elle voit, elle dit, ok, je signe. Je signe pourquoi ? Pour revenir donc dans ce monde, puisqu'on est tous des réincarnations. Je signe pour revenir dans ce monde, ok, et pour passer la vie que tu vas me faire vivre, Hachem, pour réparer en fin de compte toutes les petites réparations. C'est comme si on va dans un garage et ce monde-ci, c'est un petit garage, les réparations, les machins. Donc elle signe.
Une question.
Oui.
On est des réincarnations, mais est-ce que dans le passé, on était juifs ou pas ?
Ah oui.
Ah, on est obligé d'être juifs, c'est une réincarnation, mais on ne peut pas être.
Un petit chat.
Non, tu es déjà à 15 ans. Donc.
Mais juste une dernière petite question.
Tu peux y aller, on est là pour ça.
Non, au moins on m'a dit, je sais plus qui, quoi, comment.
Mais on te l'a dit, tu t'en rappelles.
Je m'en rappelle en tout cas, qu'il y a eu une histoire avec les femmes juives de la Shoah qui ne peuvent pas être réincarnées, je crois.
Pourquoi ?
Je sais plus. Alors, il y a quelqu'un qui l'a lu, qui me l'a dit et je.
Je sais pas, mais attention, il faut savoir une chose, c'est que. Quand tu as fini en réalité, tu as réparé, d'accord ?
Bah,
tu ne vas pas revenir, on ne va pas te faire revenir pour le plaisir, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, tous ces gens, qui sont nés, que ce soit la Shoah, que ce soit même à l'armée ou quoi, toute personne qui meurt, d'accord, pour ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Kiddush Hashem en français, c'est sanctification du nom divin. Toutes ces personnes, en réalité, elles ont plus rien à réparer. Elles arrivent directement au Olam Haba. Il n'y a plus, tu comprends. Donc, et Chol Yod, que ça rejoint en fait ce que tu dis là. Okay, donc, je reprends. Donc, quand la Neshama, avant de descendre, on lui montre tout et qu'elle dit OK, parce que maintenant c'est limpide, elle voit toutes ses réparations, elle se dit bah oui, je suis obligée de passer par situation A, B, C, D, machin. Je suis d'accord. Donc, en réalité, tous ces conflits qu'on peut avoir avec nos parents, des fois on entend les jeunes dire ah, oh, ma mère, des jeunes et moins jeunes même. Ah, mais ma mère comme ci, ma mère comme ça. Écoute, tes parents, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ça n'existe pas que tu as eu des parents tordus, machin. Tes parents, c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Donc, ce n'est pas la peine d'être en conflit. Ce n'est pas la peine de croire que si tu étais tombé sur une autre famille, tu savais où tu allais tomber, tu étais d'accord, tu as signé. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans des conflits parents-enfants. Ça, vous pouvez répondre ça des fois à des jeunes. Souvent, quand j'ai des jeunes qui viennent chez moi, qui, bon, pour toutes sortes de petits problèmes, et qui commencent, les parents, je lui dis, non. Tes parents, c'est tes parents. On doit respecter nos parents d'une manière ou d'une autre. Après, ben, y a la vie qui fait qu'il y a des conflits, il y a des machins, et on va essayer d'aplanir. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a, ça n'existe pas des mauvais parents. Et j'aime bien aussi toujours rajouter cette petite note, parce que nous, les femmes, on a, je crois, depuis que Chava, Ève, elle a fauté, on trimballe vraiment ce sac-là, cette besace énorme qui pèse des tonnes et des tonnes. Ça n'existe pas une mauvaise maman. Il n'y a que des bonnes mamans. Souvent, j'entends des femmes me dire « Mais je voudrais tellement être une bonne maman. » Je dis « Mais tu es une bonne maman. Ça n'existe pas. » D'accord. Après, oui, une maman peut faire des erreurs, mais tout le monde en fait des erreurs. C'est l'être humain, donc c'est pas grave. Une maman, elle essaie de toujours faire au mieux. Donc ça, c'était encore... mais c'est important de se le dire, parce que ça aussi, des fois, on trimballe avec nous des comme on a dit, des boulets comme ça, et tout ça, ça nous empêche en fait d'être des simcha, ça nous empêche de bien vivre, ça nous empêche d'avancer. Il faut sortir de tout ça.
Est-ce que la Neshama peut ne pas signer?
Ah non, elle signe.
Ah ben voilà, donc c'est pas le bon.
Elle signe, puisque la Neshama, si elle est envoyée, elle y est envoyée ici, si elle est descendue, c'est qu'elle a signé. Elle ne peut pas dire, ah ben non, je ne suis pas d'accord. Mais elle, encore une fois, regardez, vous vous rappelez, on avait dit la dernière fois, 35e étage, 15e étage, rez-de-chaussée. Nous, maintenant qu'on est là, ben oui, on est au rez-de-chaussée, donc on se dit, mais pourquoi, mais comment, mais c'est pas juste. Il n'y a pas, c'est pas juste. Je ne sais pas, pourquoi, comment, mais Dieu, il sait, lui. Lui, il sait des choses que moi, je ne sais pas. Donc, la Neshama, quand des fois, on passe par des situations difficiles, d'accord, tout le monde a ses moments de difficulté, tout ça, il faut se dire, mais écoute, de toutes les façons, je comprends que même ça, ce n'est pas par hasard. Ça fait partie de ma réparation. C'est mon chemin de vie, c'est mon rail. C'est comme ça. Il n'y a pas une situation que tu vas vivre dans ta vie que c'est par hasard. Il n'y a pas une situation dans ta vie que tu vas vivre, d'accord, où tu vas dire, c'est bien fait, on t'a fait ça pour... Hachem, il a dit, tiens, je vais l'attaquer, je vais lui faire du mal, je vais... Non. Non, ça n'existe pas.
Alors, tout ce que tu entend vis... comme réparation on répare la faute de qui?
Quelle bonne question.
Et comment les parents incestueux, les parents qui tuent les enfants...
Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on répare? On répare en réalité la faute de Chava. On n'a toujours pas réparé. C'est terrible à entendre, parce qu'on se dit quoi maintenant? Ça veut dire qu'on est toujours dans cette première faute. En fin de compte, on va essayer de répondre à toutes les questions, mais c'est important de se le dire. En fin de compte, la faute de Chava, d'accord, c'est jusqu'à présent. C'est, si on analyse bien...
Attends, mais c'est que la faute de Chava et Adam.
Il n'a pas de faute.
C'est, si on va plus loin, tu veux qu'on rentre plus loin encore?
Non, parce que, bon, je n'ai pas osé dire tout à l'heure, mais là, on va ouvrir un sujet.
On est là pour ça.
Bon, et ben, j'ai trouvé que c'était très fort cette histoire de Tikkun. Je reviens à l'histoire de la paire de semences.
Ouais.
Parce que, puisque bon, c'est après, c'est lié un peu à l'histoire d'Adam et Hava. Parce que j'ai entendu dans un cours, et c'est là que, en fait, pourquoi je dis ça. Pas seulement pour raconter l'histoire, mais parce que cette histoire de Tikkun qui nous a donné Rabbi Nachman, c'est tellement puissant, mais c'est en rapport avec cette histoire. C'est que j'avais entendu que, en fait, quand ils ont fauté, après ils se sont séparés pendant quelques temps, quelques années, je ne sais pas, peut-être 130 ans. Et donc, Adam, il a erré tout seul, donc il y a eu des paires de semences de sa part qui se sont réparties, malheureusement, dans tout le monde. Et en fait, quelque part, donc, on a Torah et Mitzvot parce que aussi quand on fait Torah et Mitzvot, on récupère ces étincelles de Kedusha qui se sont éparpillées dans le monde. Et donc Rabbi Nachman, il a mis un catalyseur, c'est Tikkun HaKalim, parce qu'en fait, tu termines encore plus vite le...
On répare tout, Nachon, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais d'où découle la faute, d'accord, de toutes ces semences et de toutes ces étincelles qui se sont perdues en réalité? Tout ça, ça découle du fait que Chava, Ève, elle a touché le Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, d'accord, et qu'elle a mangé du fruit de la connaissance. Tout découle de là. Maintenant, si tu veux aller plus loin, on va un petit peu en arrière, vous voulez une séquence en arrière? Ben oui, parce qu'après, il faut se le dire, d'accord. C'est que Adam, quand Hachem, il a donné, donc il a créé l'homme, Hachem, il a donné une seule mitzvah, on l'avait dit je crois là, il y a deux semaines, mais on le répète, bah, Hachem il avait donné un seul commandement à Adam, il lui a dit regarde, tout ça, tout ce jardin d'Éden il est à toi, tout est à toi, super, une chose te demande, tu ne touches pas, tu ne manges pas du fruit de la connaissance, pas que tu ne vas pas le toucher jamais, tu ne vas jamais le manger, d'accord, après, dès que Shabbat rentre, parce qu'on était avant Shabbat toute cette histoire, d'accord, dès que Shabbat il va rentrer, tu vas pouvoir prendre. Mais Adam, lui, donc le mari en fin de compte, il a dit à sa femme, écoute, tu ne touches pas. Il a voulu rajouter. Tu te rappelles de ce cours-là? On avait fait à Ranana. Donc il a voulu rajouter. Donc au lieu de lui dire, ma chérie Ève, voilà, Dieu m'a dit, on touche pas, on mange pas de l'arbre, d'accord? Parce que c'est pas le moment encore, le fruit n'est pas encore mûr. Dès que Shabbat va rentrer, tu pourras toucher le fruit. Mais pour l'instant, tu ne peux pas le manger, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, Chava, je te dis d'avance, Hachem il m'a dit un truc, et tu as intérêt à obéir, tu ne touches pas là, parce que si tu touches là, c'est mort. Bon. Adam et Chava se sont retrouvés comme un couple, d'accord? Ils ont fait la mitzvah, ils se sont accouplés. Et on va rentrer dans des trucs que je pensais pas du tout rentrer, donc mais c'est pas grave, hein, on fera peut-être la suite après, je sais pas, mais on voit. Il faut savoir que avant, d'accord, la relation entre un homme et une femme, enfin avant du temps pour Adam et Chava, la relation, c'était en réalité par le baiser, d'accord. C'était par le baiser et ça sortait, tout passait par le baiser. Quand ils se sont accouplés, le serpent, d'accord, qui avait à l'époque une forme d'être humain, c'est-à-dire qu'il se tenait sur ses jambes, d'accord, et il avait une apparence un petit peu comme ça, qui se rapprochait à l'apparence humaine. Donc le serpent, quand il les a vus, il a dit, mais moi aussi je veux, comme ça, parce que eux, les animaux ne s'accouplaient comme nous on s'accouple aujourd'hui, d'accord, on va dire qu'il y a eu une chute, une descente, d'accord. Donc il a dit, mais moi aussi je veux ça, c'est-à-dire que lui il a trouvé ça merveilleux, d'accord, de, on s'embrasse et voilà, ça fait une relation. Aujourd'hui tu donnes ça à des jeunes, tu le dis, oh, c'est bidon, c'est pourri, il y a plus, et c'est ça en fait, c'est plus tu avances, plus tu veux descendre encore plus, d'accord, jusqu'à que on en arrive à des abominations. Donc quand ils se sont mis ensemble, Adam, après avoir été avec sa femme, d'accord, ben il s'est endormi. Et une femme, jusqu'à aujourd'hui, hein, je crois que c'est resté, c'est la femme. La femme, après qu'elle est avec son mari, qu'elle elle a donné en fin de compte tout son être, elle a donné toute sa neshama, elle a donné ce qu'elle avait de plus beau, de plus précieux, c'est son intérieur, d'accord ? Et ben, une femme, après, elle a envie que son mari la prenne dans les bras, il reste près d'elle. C'est d'ailleurs une obligation, selon la Torah, l'homme, après qu'il a été, quand il est avec sa femme, il n'a pas le droit après de dire fume une cigarette ou dire bon allez je m'en fous. Non, tu as l'obligation, d'accord, de prendre, la Torah nous enseigne, c'est un savoir-vivre, c'est comme ça, de garder sa femme dans les bras, de rester près d'elle, de lui dire encore des mots tendres, des mots d'amour, pour pas que la femme, elle se sente genre Kleenex. J'ai pris, puis bon maintenant ça y est, j'ai eu ce que je voulais, bye. D'accord, c'est très fort chez la femme ça. Donc, il s'est endormi. Et donc, Chava s'est retrouvée toute seule, un petit peu esselée comme ça. Et le serpent, il a pris, il a dit, c'est le moment d'attaquer, d'accord ? Et il lui a fait, il lui a tourné la tête, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'il a embrouillé Chava, d'accord ? Et il lui a rentré ce qu'on appelle son zéra, il lui a rentré sa semence, d'accord ? Dans son esprit. Et il lui a dit... C'est des bêtises qu'il t'a raconté ton mari, c'est n'importe quoi, Dieu de toutes les façons il a dit ça parce qu'il veut pas que vous deveniez plus puissant, etc. Et il l'a poussé un petit peu. Et quand il a poussé un petit peu, ben elle a touché l'arbre, elle a juste touché, elle n'a pas encore mangé. Mais lui, le serpent, il savait ce qu'il avait dit à Adam, donc il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vois que ton mari te dit n'importe quoi? Tu vois que Dieu il dit n'importe quoi? Regarde, t'as touché l'arbre, il t'est rien arrivé. Et c'est comme ça que Chava, elle a dit, bon bah écoute, c'est vrai en fin de compte, elle s'est laissée embrouiller, n'oubliez pas qu'elle avait sa peine, que son mari n'était pas très machin, et donc, elle a pris le fruit, elle a mangé, et là, bing, ça a été la catastrophe, et en effet, c'est des étincelles, imaginez-vous, c'est Hiroshima, c'est toutes les étincelles divines, d'accord, qui se sont éclatées par le monde, et c'est quoi notre travail à nous justement? C'est toutes ces générations qu'on passe, d'accord? Donc ça revient maintenant à ce que tu m'as demandé. Toutes ces générations, c'est quoi notre réparation? C'est récupérer toutes ces étincelles. En réalité, tu deviens quelque part, d'accord? Quel que soit ton statut social, un peu le balayeur public. C'est-à-dire là où tu vas, rien que tu ramasses, tu te baisses et tu ramasses. Et c'est pour ça que souvent, si vous remarquez bien, on est parfois dans des situations où on est très éloigné, on est dans des situations compliquées. Et tout la réparation, c'est quoi? C'est là où je suis, quelle que soit la situation dans laquelle Hachem m'a mise. C'est pas par hasard, c'est Hachem qui m'a mise là-bas. Et bien, quelle que soit cette situation, ma réparation, c'est quoi? C'est de rester attaché à Hachem. C'est quoi être resté attaché à Hachem? C'est malgré tout avoir cette confiance, avoir cette foi que ce que je suis en train maintenant de passer, c'est des volontés divines pour arriver à ce que vous avez demandé, d'accord? Parce que là, je me dis, elle doit se dire, mais comment une volonté divine? Alors, pour vous passer, parce qu'on ne peut pas répondre bidouk à ça, mais pour que vous donner un enseignement, je n'ai plus les noms en tête bien, mais quand même. Vous vous rappelez cet épisode quand on était en Égypte et que Pharaon avait décrété qu'on prenne tous les enfants, d'accord, on les jette et tout ça. Et il y avait eu même un décret qu'on avait dit, ben, pour aller plus vite, on prend les bébés, que Dieu nous en préserve et vraiment que toutes ces petites néchamottes, elles aient leur réparation si Dieu veut. On prend tous ces bébés, ces nourrissons, et on les... mais dans le mur, et on faisait à la place de la paille, à la place de tout ça. C'est horrible. Moshe Rabbeinu, d'accord, Moïse, il a été chez Hachem, il a dit, mais comment? Comment une atrocité pareille? Comment c'est possible? Nos enfants, comme ça, emplâtrés, comme ça, emmurés, comment? Akadosh Baruch lui a dit, tu poses une question, tu crois que moi, je ne sais pas ce que je fais? Tu crois que moi, je peux ne pas avoir de la, comment dit la Rahmanout, de la compassion pour mes propres enfants? Tu penses vraiment une chose? Il a dit, tu sais quoi? Prends-en un. Sors-le et sauve-le. Celui qu'il a pris, il s'appelle Micha. Et on sait que, j'ai oublié Bidouk l'histoire de Micha. Mais on sait que Micha a grandi et Micha a été un des pires ennemis d'Israël, du peuple juif. Ce qui fait que, ici, de là, les commentateurs, ils viennent et ils nous enseignent, ne crois pas que Hachem, il fait passer des choses comme ça pour rien. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il y a des fois des situations, encore une fois, il y a des situations qui sont terribles. Voilà, on aurait un enfant, un inceste, un viol, un truc. Bon, c'est horrible, que Dieu nous en préserve, d'accord ? Même sans aller tellement loin. Des fois, des situations, je ne sais pas, de détresse. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est horrible et que nous, on doit tout faire pour compatir et on doit tout faire pour aider et on doit toujours... Mais on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Et je pense, et je le dis parce que j'ai eu l'occasion de traiter certains enfants, certains adultes qui sont passés par là, que Dieu préserve. Je pense que la meilleure aide qu'on puisse apporter à ces gens-là, c'est d'essayer justement de les faire sortir de tout ça, leur dire, regarde, d'abord, ne t'en veux pas, ne crois pas que tu es, parce que souvent ils ont le truc de dire, crois que c'est à cause d'eux, etc. Ne t'en veux pas, t'as rien fait, et toujours, hop, prends du recul, essayer de les rattacher à Hachem, essayer de leur faire comprendre qu'on ne sait pas c'est quoi les réparations, mais que maintenant, il faut avancer. On est obligé d'avancer, on n'a pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, encore une fois, c'est des sujets qui sont très délicats, c'est des sujets qui font très très mal, mais on voit bien que, de par le passé, Akadosh Baruch Hu, d'accord, on le voit avec ce nourrisson, Micha, qui, en fin de compte, c'était un nourrisson, c'est affreux, mais il a été, mais vraiment, un des pires ennemis du peuple d'Israël. Donc on voit bien que Akadosh Baruch Hu, quand il fait passer des situations à une personne, on ne sait pas la réparation. Et comme on dit, l'âme qui, elle, était clairvoyante et qui savait c'était quoi la réparation. Et encore une fois, la réparation, c'est pas moi. On le voit bien, c'est des réparations qui sont depuis 5000 ans. Donc c'est même pas, ça me correspond même pas en réalité. Je sais même pas qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là. Mais si maintenant, justement, je reste et je me dis, attends, il y a des réparations dans ce monde. Moi, c'est pas moi, je suis pas responsable. C'est des choses d'avant, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Ça nous permet de prendre du recul par rapport à rester bloqué sur une situation. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment comme...
Excusez-moi, quand vous dites par exemple Micha et les autres, ça ne veut pas dire que tous ceux qui subissent ce sort, ils le méritent. Parce que quand ils seront grands, ils vont devenir des méchants. Et les enfants d'inceste, ça ne veut pas dire qu'ils méritent...
Ah non, il n'y a pas de mérite ici. Non.
Qu'ils méritent ce châtiment et ce sort... Par exemple, et les enfants handicapés qui naissent avec un problème. Bon, on peut parfois, je suis médecin, donc je sais que certains qui sont dus à des médicaments, à certaines infections, des choses comme ça. Mais à certains qui naissent, et jusqu'à maintenant, on dit que c'est idiopathique, on ne connaît pas la cause. Est-ce que ces enfants-là, bon, Dieu, il peut nous apporter beaucoup d'amour à travers ces enfants handicapés.
Tout à fait.
Est-ce que, d'après ce que j'ai compris, est-ce que ça veut dire qu'il mérite ça?
C'est pas
comme Mira?
Attendez, c'est pas mérité dans un sens péjoratif. Ça veut dire que Hachem, quand il place quelqu'un dans une situation, un enfant handicapé ou autre, d'accord, c'est bien pour lui maintenant. C'est pas un châtiment. Parce que vous êtes médecin, donc je pense que vous voyez bien souvent des parents, d'accord, d'enfants handicapés, qui en réalité, ces parents-là grandissent à travers leurs enfants. D'accord, parce que... Bien sûr, tout le monde grandit. Dès qu'on est d'accord avec un enfant, entre guillemets, différent ou à problème, automatiquement, ça nous fait prendre du recul, ça nous fait voir les choses différemment. Quand je dis mériter, le mot mériter, peut-être là, il a une connotation... négative, mais c'est pas ça. C'est Hachem, il sait chacun ce qu'il doit passer et pourquoi il doit le passer.
C'est-à-dire qu'en fait, je pense que...
Et tout dépend de la perception, vous comprenez ? Lui, Moshe Rabbeinu, pour Micha par exemple, il avait en réalité un manque de clairvoyance, il avait pas la bonne perception puisqu'il peut pas tout voir.
Oui,
d'accord ? Mais Hachem, lui, il dit, c'est ce qu'il faut. Pourquoi un enfant, il vient comme ça ? C'est ce qu'il faut maintenant pour lui. Ça fait partie de ses réparations. Ça fait partie de... Mais ce n'est pas des châtiments, ce n'est pas des punitions. Nous, parce qu'on est pauvres de connaissances, parce que notre esprit, il est très limité, d'accord ? Donc on voit ça comme, ah, c'est terrible, machin. Mais si maintenant on monte, d'accord ? On monte, et qu'on se dit, Hachem, il a décidé comme ça parce que c'est bien pour cet enfant comme ça, parce que sa réparation, elle passe par là. La réparation des parents passe par là. Alors nous, on va voir comme ça, comme une punition, on dit, oh là là, c'est dur, machin. Mais Hachem, il donne à chacun les forces qu'il a besoin pour pouvoir supporter l'épreuve. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas Chas v'Shalom. Encore une fois, il faut sortir de ce Dieu diabolique, entre guillemets, vous voyez, où on satanise Hachem. C'est pas ça.
Non, Dieu est amour.
Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est que connaissance, Dieu n'est que raison, et qu'Hachem, il sait pourquoi il fait les choses. Moi, je sais pas. Dieu, il sait. Et tout mon travail et toute ma réparation, c'est quoi ? C'est justement d'avoir cette annulation devant Hachem. Ce bitoul, je sais pas si on dit ça en français, l'annulation, c'est ça ? C'est savoir s'effacer devant la volonté d'Hachem. Nous, on vient en disant « je veux ma volonté », mais en réalité, il y a une volonté divine qui est juste. Et c'est ça la réparation. C'est...
On comprend rien,
on ne peut pas comprendre.
On devient passif.
Non. Parce que justement, on a la tfila, c'est ça ce que je... Voilà, je reviens à ce que tu dis. Dieu, il nous a donné une arme magnifique. C'est la tfila. C'est notre prière personnelle. Cette prière qui va sortir du cœur. Si on savait toutes les choses merveilleuses qu'on peut opérer grâce à notre prière personnelle, sans livre, dans notre langue maternelle, avec nos mots, avec notre manière de nous exprimer, si on savait ce qu'on pouvait opérer comme chose extraordinaire et grandiose, on ne s'arrêterait pas. Et prier, ce n'est pas être passif, au contraire. Prier Hachem, demander à Hachem, c'est être très actif. Et c'est ça toute la réparation. Toute la réparation, c'est faire résider Hachem dans ce monde dans lequel on vit, à travers toutes les situations qu'on va passer, et justement de ne pas se déconnecter de lui. C'est travailler pour dire non, malgré la situation, je reste connecté. Malgré des fois des situations qui nous paraissent, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Non, moi je garde encore cette foi que tout peut changer, tout peut s'inverser. Je parle avec Hachem. Et quand je parle avec Hachem, et encore j'insiste vraiment parce que Rabbi Nachman, il a beaucoup développé sur ça, ça s'appelle la Hitbodedut en hébreu. Hitbodedut, ça veut dire s'isoler un petit peu, pour épancher son âme. Voilà, c'est ça en fait. Si on savait les changements qu'une Hitbodedut, elle peut opérer, pas seulement chez moi, d'accord ? Parce que quand une personne prie, eh ben, ça influence dans le monde entier. Et il y a marqué même que celui qui prie pour son prochain, eh ben, il va être exaucé lui et son prochain en même temps. D'accord ? Donc, au contraire, il faut utiliser cette arme, d'accord, qui est très très puissante, et se dire, Hachem, il m'a donné une force à moi, la femme. C'est pour ça que la femme aussi, elle est considérée comme tfila, comme une prière. Parce que la femme, elle a justement ces 9 mesures de parole, et elle a cette capacité à s'exprimer chez Hachem d'une manière très simple. Regardez les hommes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire pour prier ? Et vas-y, les tfilines, et vas-y le talit, et il faut prier en minyan, minyan c'est quand il y a 10 hommes, d'accord ? Donc il leur faut tout un contexte que nous, la femme, on n'a pas besoin. Nous, dans notre cuisine, en faisant notre ménage, en travaillant, à travers toute situation, c'est en nous. La femme, elle a cette force. Et la femme, bémette que si elle comprend qu'elle a une force en elle, d'accord, de prière, et qu'elle a cette capacité de faire changer les choses, si vraiment on était consciente de cette force qu'on a en nous, on l'utiliserait. On l'utiliserait et on pourrait faire changer énormément de choses. Et c'est ça ce qu'Hachem il attend de chaque femme, de chaque être humain, de chacun de ses enfants. C'est apprenez à me parler. Apprenez à vous rapprocher de moi en me parlant sans mettre de distance entre vous et moi. Il y a eu trop, on nous a trop inculqué la distance entre nous et Hachem, à tel point qu'on n'ose plus lui parler, qu'on n'ose plus l'approcher et qu'on préfère s'éloigner. Non, Hachem il n'est que bonté, Hachem il n'est qu'amour, Hachem on est ses enfants. Hachem il n'a qu'une seule chose, c'est vouloir qu'on soit proche de lui, quelle que soit la situation. Quel que soit notre attachement, on va dire, à la Torah et aux mitzvot. Hachem, il s'enorgueillit de chacun de ses enfants. Qui que l'on soit, même si tu dis, tu sais quoi, rien, je fais rien. Tu sais que tu es juive, tu te présentes en tant que juive encore. Hachem, il s'enorgueillit de toi. Hachem, ça veut dire il a une vision et il a une perception de nous et des événements qui est tout autre. Vous vous rappelez la première Torah qu'on avait fait, c'est apprends à juger toujours l'autre avec un œil positif. D'accord ? Et bien pourquoi ? Parce que c'est ce qu'Hachem il fait avec nous. Hachem, quoi qu'on fasse, il va toujours tourner, d'accord, d'une manière positive. Il va toujours dire, parce qu'on est ses enfants. On est ses enfants et nous, on a ce devoir aussi. Toujours regarder l'autre d'une manière positive. Parce qu'il y a une chose qu'Hachem, il a en horreur, c'est quand on vient chez lui et qu'on parle mal de ses enfants. Hachem, il ne peut pas supporter ça. Parce que c'est comme une maman. Parce qu'une maman, elle peut supporter qu'on vienne parler mal de son enfant. Même s'il a fait des bêtises, ça reste son enfant. Et bien, c'est exactement comme ça, Kadosh Baruch Hu. Donc, on voit que quand on voit un juif, même des fois, ne pas se comporter comme il faut, se dire, il a des points positifs, il a quelque chose de bien. Toujours rechercher le bien qu'il y a en chacun de nous. Et c'est ça, en réalité, tout le travail. Je termine juste la lettre, comme ça, on ne reste pas sur un... Et donc, il dit comme ça, d'autant plus qu'en ce qui nous concerne, nous sommes assistés, soutenus par la force et le mérite de quelqu'un d'aussi puissant que notre maître, Rabbi Nachman, de mémoire bénie. Rappelons-nous, alors ça, vous ne le savez pas, qui nous a lui-même mis en garde de bien compter sur sa grande puissance. Rabbi Nachman, alors on ne peut pas tout dire tout d'un coup, mais une chose que je peux vous dire, c'est que Rabbi Nachman, il a dit, n'ayez crainte, je marche devant vous. C'est quelque chose de très fort. Chaque parole que le tzaddik il a prononcée, ce n'est pas des paroles en vain. D'accord ? Aujourd'hui, il y a plein de phrases qui sont devenues entre guillemets à la mode. Même chez les non-juifs, le monde est un pont très étroit, l'essentiel c'est de ne pas avoir peur du tout. C'est une phrase que Rabbi Nachman a dit, ce n'est pas des phrases en vain. Quand Rabbi Nachman il dit, tu n'as pas à avoir peur, accroche-toi à moi, d'accord ? Et moi avec mon mérite, t'inquiète pas, je vais tout faire, je marche devant vous. C'est-à-dire, c'est comme si qu'on avance, on a des arbres devant nous, on est dans une grande forêt, lui il est devant, il abat tout. Il fait tout. Accroche-toi. Ça veut dire, Rabbi Nachman, il nous a promis, je vais tout réparer. Pourquoi ? Parce que, bon, ce sera prochain cours, mais je vous donne une petite... Avant la faute de Adam et Chava, d'accord ? Toutes les âmes étaient contenues donc dans Adam. Et juste avant qu'il y ait la faute, alors... La Neshama de Rabbi Nachman lui a dit, si tu fautes, je me retire. C'est la seule, et Bémet, que c'est la seule Neshama qui s'est retirée. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a cette possibilité, puisque sa Neshama, en réalité, n'a pas fauté. Elle est restée, on va dire, entre guillemets, à l'état originel. Donc, c'est le seul à pouvoir venir aujourd'hui nous dire, reste joyeux, ne t'inquiète pas, moi je vais réparer, accroche-toi à moi, moi je vais réparer. C'est le seul à avoir dit, celui qui vient sur ma tombe, mettre une pièce de tzedaka et il va lire le Tikkun HaKlali et il va s'épancher d'accord, sur ma tombe. Il a dit, moi je vais lui faire la réparation de son âme depuis la création du monde. C'est le seul à avoir dit une chose pareille. Après, on peut dire j'y crois pas, mais aujourd'hui personne ne peut dire tu crois pas parce qu'on est... On est des enfants de croyants et on est ma'aminim, b'nai ma'aminim. Donc, tous les rabbanim, tout le monde aujourd'hui, de partout, les gens partent. Et je peux vous dire qu'on organise deux fois par an des voyages chez Rabbi Nachman et qu'à chaque fois, Agnès est venue souvent avec nous. On a pu voir des choses, mais exceptionnelles. Et on voit comment toutes ces personnes qui viennent du monde entier, de toute appartenance religieuse ou pas, ça veut dire... C'est incroyable, même les non-juifs, d'accord, viennent sur sa tombe et implorent là-bas. C'est quelque chose de très très fort. Et chaque fois, vraiment, on entend comme ça des personnes qui ont été là-bas et qui ont eu vraiment des grandes délivrances. Donc, c'est pas pour rien quand lui il nous dit comme ça de pouvoir compter sur lui. C'est-à-dire, si je m'attache, d'accord, au tzaddik, ça va être mon avocat. on a besoin d'un médecin, on a besoin d'un avocat. Ben, Rabbi Nachman, c'est notre avocat. On s'attache à lui, on fait le Tikkun HaKlali, on fait des petits conseils qu'il a pu nous donner, comme par exemple parler avec Dieu, d'accord ? Et puis, lui, il va marcher devant nous. Il va marcher devant nous, il nous dit, t'inquiète pas, accroche-toi bien. Tu vas passer par un pont très 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 étroit, c'est la vie de chacun. Mais l'essentiel, n'aie peur de rien. Ne te laisse pas troubler par les mauvaises pensées, par les soucis, tes peurs, tes machins. Te laisse troubler par rien du tout. Avance. Parce que moi, je marche devant toi et je déblaye le terrain. Même si à l'extérieur, tu as l'impression que ça fait peur et que les choses, les problèmes ne s'arrangent pas. Donc voilà, Bezrat Hachem, c'était une introduction à la prochaine fois. Alors pour celles qui sont intéressées, on part, si Dieu veut, jeudi 13 juin, là, juste après Shavuot. Comment ?
Il va demander justement quand est-ce qu'il y avait, parce qu'il peut venir le 13 juin.
C'est que pour les femmes, hein, nous on organise. Pour les hommes, c'est pendant Shavuot.
À Shavuot,
on organise pour les hommes aussi. Donc, si vous y êtes, nous on fait que pour les femmes. Ouais. C'est très sympa, c'est je peux vous dire.
Le prochain,
ça sera en décembre. On fait toujours un en été et en hiver. Ouais. C'est deux voyages vraiment exceptionnels. On part chez le Baal Shem Tov. On va faire Berkitchev. On dort à Medzibouch chez le Baal Shem Tov. Je ne sais pas si j'arrive. On dort chez le Baal Shem Tov.